Et ben, on démarre ça avec Isabelle et sa sixième rencontre de ces ateliers. Atelier gratuit, petit résumé, Madame Duchamp.
Oui, en fait, je suis bien contente que de vous-même, vous ayez rappelé que c'est gratuit. Oui. Vous savez à quel point c'est important pour moi que ce soit ouvert à tous et que les gens le sachent, que souvent, ça a l'air tellement compliqué, tellement gros qu'on pense que ça doit être très cher. Alors, dans ce cas-ci, il faut se rappeler que ce sont des ateliers gratuits qui partent quand même ça fait quand même plusieurs années que ça existe, donc ça a fait ses preuves. Donc, j'aime bien rappeler, surtout qu'on là, on est au sixième et dernier, donc ce sera notre point de conclusion, qu'il y a un noyau à ce programme-là d'activités qu'on ramène à chaque session. Donc, on va expliquer le cercle des symptômes qui s'auto-nourrissent. Donc, des fois, on peut, parce qu'on a mal à quelque part, ça va nous causer un stress, ça va nous causer de l'insomnie, etc. Donc, ce qu'on veut faire, c'est briser ce cercle-là et pour le briser, on a une boîte à outils. Donc, comme dans une boîte à outils où on a un tournevis quand on veut dévisser ou visser et un marteau quand on veut cogner sur quelque chose, bien, dans la boîte à outils, on a des outils qui peuvent nous servir à différentes étapes, que ce soit pour aider justement à gérer le sommeil, la communication avec l'entourage, etc. Et le plan d'action est un outil particulièrement important, c'est-à-dire de prendre des décisions sur ce qu'on veut changer dans notre vie et de le faire avec des étapes concrètes qu'on peut vraiment valider si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Et on a la résolution de problèmes qui, à ce moment-là, va nous aider. Quand ça ne fonctionne pas, ce qu'on a essayé, qu'est-ce qu'on fait pour pas juste rester dans le « ça ne fonctionne pas », mais comment on l'ajuste.
Je sais qu'aujourd'hui, on veut parler, entre autres, du lien avec notre professionnel, mais est-ce qu'il y a d'autres aspects que vous voulez couvrir avant qu'on s'attaque au professionnel?
En fait, dans ce qu'on va parler, effectivement, il y a comment mieux gérer notre rencontre avec le professionnel de la santé et le système de la santé en général. Aussi, beaucoup de gens ont un souci de le maintenir ou d'obtenir le poids idéal qu'ils voudraient avoir. Avec un petit peu des petits trucs là, sur quoi faire pour que ça fonctionne. Et finalement, je vous dirais que dans le programme comme tel, à la dernière session, ce qu'on fait aussi, c'est une espèce de petite planification de l'avenir. Donc, ça, je vous dirais que c'est probablement mieux approprié quand on suit les ateliers et qu'on est vraiment rendu là dans son cheminement. Là.
J'espère qu'on va avoir du temps. On va tenter, en tout cas, pour revenir sur, si ce n'est que le titre, là, l'ABC de l'autogestion des soins de maladies chroniques, un peu ce qu'on s'était donné comme mandat. J'ai vraiment envie de savoir à quel point est-ce si facile, parce que, bon, l'ABC sous-entend que ça s'inclut assez bien dans un quotidien, mais bon, des fois, c'est pas aussi simple que ça. Mais commençons par notre professionnel. Qui nous assigne nos professionnels habituellement? C'est surtout le système, hein?
En fait, nous, ce qu'on fait, c'est plus une fois qu'on sait qu'on doit consulter, comment bien se préparer à ce rendez-vous-là. Donc, c'est là où on va plus aider les gens, parce que le professionnel de la santé, on le sait, surtout au Québec, des fois, c'est difficile d'avoir un médecin de famille. Généralement, quand on a des conditions chroniques, on a un spécialiste qui s'occupe de nous. Et effectivement, habituellement, c'est un professionnel qui nous est attitré et non qu'on a choisi, à moins que ce soit une référence de quelqu'un dans la famille ou quelque chose comme ça.
Rare qu'on choisisse son professionnel de santé, hein, de toute façon.
Voilà. Donc, c'est important à ce moment-là. Des fois, on a une moins bonne relation ou une relation plus difficile ou les visites sont courtes ou pas assez longues à notre goût. Donc, comment on fait pour s'assurer qu'à chaque visite, on en tire au moins le maximum? D'abord, ce qu'on vous suggère, c'est d'utiliser le fameux message en jeu qu'on a parlé il y a quelques sessions, là, qui, plutôt que d'arriver et de dire « vous ne me comprenez pas » ou « vous m'expédiez » ou c'est d'y aller avec un « j'ai l'impression que je ne suis pas écoutée ». Des petits messages qu'on peut passer, mais qui sont moins agressants envers le professionnel de la santé, déjà, ça va aider. Et aussi se souvenir que c'est des humains comme nous. Fait que des fois, ils nous expédient, mais c'est parce que eux aussi, ils ont des pressions, eux aussi, ils ont des humeurs, etc. Et donc, de sortir en disant « merci beaucoup de m'avoir écouté » ou, tu sais, juste un petit mot qui finit sur une note plus positive. La prochaine fois qu'on va arriver, il va peut-être avoir une meilleure écoute pour nous. Et on parle du programme « Prendre part ». Donc, c'est ce qu'on dit, c'est quand vous allez voir votre médecin, avant même de vous rendre à son rendez-vous, ce serait important de suivre ces étapes-là. Donc, le PAR, il y a le P pour préparer, le A pour agissez, R pour répéter et T pour tenez-vous au courant. Donc, le préparez-vous, c'est quand vous êtes chez vous, après votre première visite chez le médecin ou avant votre première visite chez le médecin ou après qu'il vous ait fait une nouvelle prescription, essayez de faire un suivi à la maison de comment vous réagissez à cette médication-là. Est-ce que ça a aidé rapidement, moins rapidement? Est-ce que ça vous a fait des effets secondaires, etc.? Prenez des notes de ces symptômes-là, de ces activités-là, si vous n'avez pas pu prendre le médicament comme il vous l'a prescrit. Et ensuite, faites-vous une liste de questions que vous avez pour votre médecin. Ça va vous permettre qu'en arrivant chez le médecin, vous pourrez prioriser d'abord parmi toutes vos questions, lesquelles vous voulez auxquelles qu'il réponde immédiatement. Et ensuite, vous assurer que si vous n'avez pas pu avoir réponse à toutes vos questions, vous pouvez lui laisser.
Il me semble qu'avec ça également, j'aurais envie d'en savoir davantage sur les effets secondaires avant pour pouvoir, dans ma prise de notes, évaluer quels effets secondaires m'assaillent et lesquels, finalement, ne me touchent pas.
Effectivement. Et c'est là, le agissez dans le A, dans le PAR, là, c'est de poser des questions, vous assurer que vous comprenez bien ce qu'il vous a dit, comprenez bien ce que veut faire ce nouveau traitement-là et quels pourraient en être les autres effets. Et par la suite, le R, bien, c'est pour répéter. Assurez-vous, oui, vous avez bien écouté, mais répétez pour être sûr que ce que vous avez compris, c'est vraiment ce qu'il a voulu dire. Et le T, on le met pour tenez-vous au courant. Donc, oui, ce que le médecin vous a dit, mais rendu chez vous, là, vous pouvez aussi fouiller un peu plus sur Internet, poser un peu plus de questions sur c'est quoi les autres effets, c'est quoi les autres possibilités et quels seraient les autres traitements qui pourraient aussi faire votre affaire et ensuite en parler avec votre professionnel de la santé.
Mais sur Internet, il faut se méfier parfois parce qu'il faut regarder bien ses sources. Là, on peut lire un peu tout et n'importe quoi.
Effectivement.
Surtout sur des sujets aussi sensibles
oui,
que ça.
Oui, puis c'est pour ça d'ailleurs que je pense que c'est à la dernière session où on avait parlé de garder les sites web là, qui ont des points .edu ou .gov ou donc des sites plus fiables là, qu'un blog de monsieur et madame tout le monde qui s'invente médecin.
Vous vouliez parler de perte de poids?
En fait, c'est pas de perte de poids, c'est plus de...
La gestion.
Oui, c'est ça, parce qu'on sait que tout le monde a tout le temps cette inquiétude-là de « Ah, généralement, c'est je veux perdre du poids. » Des fois, c'est je veux prendre du poids, mais surtout, j'aimerais avoir le poids idéal. Donc, on donne des grandes lignes là, de ce qu'on devrait faire. Souvent, le problème se trouve dans la portion. Donc, tu sais, c'est pas nécessairement ce qu'on mange, mais qu'on en mange beaucoup trop. Il y a toujours la méthode de l'assiette et ça se trouve facilement là, en allant sur les différents sites, entre autres passeport-santé.net, et etc. Donc, de voir que dans son assiette, on a plus de légumes que de féculents et donc des petits trucs comme ça. De limiter les aliments qui ont plus que 5 grammes de gras, 5 grammes de matière grasse. De manger, bien sûr, ses fruits et légumes comme prévu. De boire des...
Moi, si j'aime on veut... le « comme prévu
». Donc, souvent, on prévoit. Hein? On dit « je vais manger mes légumes aujourd'hui ». Mais si on s'assoit à la fin de la journée, on va se rendre compte que oui, on avait prévu faire une belle salade avec le souper, mais on l'a fait, mais on ne l'a pas mangé ou on ne l'a pas mangé à moitié. Donc, de prévoir, mais de le faire aussi. Des fois, de joindre une soupe ou un liquide avec le repas, si on se rend compte qu'on a tendance à beaucoup manger, mais ça va remplir un peu l'estomac et ça va nous aider là, à moins manger. Et souvenez-vous que le déjeuner est important. Souvent, les gens le sautent.
Et est-ce qu'il y a un lien particulier entre la prise de poids et les maladies chroniques?
Souvent, c'est l'inactivité. Donc, les gens bougent beaucoup moins. Donc, il faut faire plus attention à ce qu'on mange, surtout aux portions et aux matières grasses, parce qu'on élimine beaucoup moins parce qu'on a moins tendance à faire du sport, à marcher, etc. Donc, il faut faire attention.
Vous vouliez nous parler d'une activité comme dernière activité? J'ai ça ici là, sur ma petite feuille. Quelle est la dernière activité?
Ah, en fait, on a parlé au début. Là, la dernière activité de tout qu'on fait dans le programme, c'est la planification de l'avenir. Donc, c'est prévoir pour les 3 à 6 prochains mois ce que je veux faire, un espèce d'exercice de visualisation.
Oui.
Est-ce qu'il peut y avoir un suivi après, quand les gens ont quitté?
Certains groupes se réunissent une fois par mois, 2 mois, 3 mois par la suite pour être sûr qu'ils continuent dans le bon chemin avec leur plan d'action, oui, etc. Donc oui, ça se fait, mais pas avec le programme.
C'est ça, c'est impromptu, là. Oui. Les gens s'organisent par eux-mêmes. Lorsqu'on parle de l'ABC, de l'autogestion, les pièges, à quel point c'est peut-être plus compliqué que... Il faut être discipliné, Isabelle, pour faire tout ça. Même si ce sont des choses simples, il faut se discipliner.
Oui, clairement, mais ce que les gens comprennent à travers les 6 semaines, et je vous dirais même après 2-3 semaines d'essai du plan d'action, on se rend compte que ce n'est pas aussi compliqué qu'on pensait.
Okay.
Et de simplement garder contact avec d'autres personnes à qui on dit ce qu'on veut faire, c'est déjà une bonne étape pour être plus discipliné. Parce qu'il y a quelqu'un qui te demande la semaine suivante, « T'avais dit que tu ferais, moi, t'arrêterais de manger des chips l'après-midi. Est-ce que tu l'as fait cette semaine? » Donc, en ayant des comptes à rendre, on se rend compte qu'on a un petit peu plus de discipline. Donc, les gens, oui, arrivent un peu dépourvus, un peu inquiets de à quel point ça va être exigeant, surtout quand on leur dit que vous allez avoir un plan d'action à faire à chaque semaine. Finalement, après 2-3 semaines, ils se rendent compte que c'est pas aussi pire qu'ils pensaient.
Ce sont des bonnes habitudes à prendre, finalement.
Oui, oui.
Ouais.
Oui, pour tout le monde, d'ailleurs.
Oui.
Pour tout le monde. Qu'on aille chez notre médecin parce qu'on a une maladie chronique ou pas, c'est vrai que c'est bien de se préparer. Puis...
Moi, je pense vraiment que ce genre d'atelier-là devrait être offert pour tous et même quasiment partie du curriculum scolaire. Là.
Ouais. J'oublie, là, c'est My Toolbox, mais il y a un autre mot.
My Toolbox. McGill.ca.
OK, mytoolbox.mcgill.ca, c'est gratuit.